France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la commune libre de Christiania. En 1971, une poignée de jeunes Danois investissent une base militaire que le ministère de la Défense vient d'abandonner là en plein centre de Copenhague. Un lieu immense, plus de 30 hectares de bois et de canaux, la taille du parc des Buttes-Chaumont à Paris. Rapidement, ces jeunes s'organisent en une communauté autogérée, alternative, libertaire et pacifiste, où dans ce phalanstère à ciel ouvert, les drogues douces sont non seulement tolérées, mais revendiquées. Une société où la liberté est le maître mot, loin de ce que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés occidentales vendues à l'idéologie sécuritaire et au rejet de l'altérité. Dès lors, comment l'État danois, connu pour son esprit de modération, a-t-il réagi face à cette jeune génération qui, somme toute, ne désirait que pointer les injustices sociales du pays ? Avec en ligne de mire cette question cruciale, comment faire évoluer son idéal sans qu'il ne perde son âme ? Notre invité aujourd'hui, Lorraine Champal, journaliste, autrice du livre « Christiania ou les enfants de l'utopie ». Elle a vécu 2 ans à Copenhague, elle connaît bien l'histoire des christianites. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnant, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Une balade en canoë chaque matin, avant d'aller travailler, c'est son petit plaisir. Mette Prague habite cette adorable maison sur pilotis, en pleine verdure, au cœur de Copenhague. Un décor de rêve dans l'une des capitales les plus chères d'Europe, un sacré luxe. Pourtant, chez elle, c'est un squat.
Tiens, come, je vous aide à monter.
Copenhague, septembre 2008. L'air est doux, le soleil brille et la jeune Mette est fière de montrer sa maison aux journalistes de l'émission Complément d'enquête. Le lieu est charmant, bucolique, et elle l'avoue. Ailleurs que dans ce quartier, jamais elle ne pourrait louer une telle maison au bord de l'eau et au cœur de la capitale. Ici, elle ne paye que 250 couronnes par mois, soit environ 30 euros. Voilà pourquoi elle parle de squat de luxe. Étrange, assurément. D'autant que cette différence de traitement a lieu au Danemark, pays connu pour son attachement à l'État-providence. Mette tient à préciser qu'elle n'est pas une opportuniste, une profiteuse du système, non. Elle est ici pour l'esprit de la communauté. Une communauté ancienne, née dans le sillage de 68, dans un climat d'amour, de partage et de contestation sociale. Le désir de vivre autrement, mais surtout une violente crise de logement qui cible particulièrement les jeunes de Copenhague. Une situation perçue comme terriblement injuste. Alors, au seuil de ces années 70, ouvertes au vent nouveau, les jeunes s'interrogent. Comment faire ? En France, certains vont faire pousser des chèvres dans le Larzac. Ici, à Copenhague, il y a cette ancienne base militaire, là, au cœur de la capitale, qui ne sert plus à rien et qui pourrait être investie. Nous sommes en mai 1971, l'année où John Lennon compose sa chanson étendard Imagine et George Harrison son hymne des années hippies, My Sweet Lord. Toute une époque, toute une ambiance. Et dans son sillage, voilà qu'une poignée de jeunes brise les clôtures pour se réfugier dans cet espace qui lui tend les bras à Copenhague. Ils y créent tout d'abord une aire de jeu pour les enfants et passent leur soirée en fumant du cannabis. L'humeur est joyeuse, frondeuse et évidemment, durant l'été, le mouvement commence à s'organiser. Rester ici, tous en rêvent. Après tout, pourquoi ne pas y fonder un monde à part, loin de la société de consommation des parents ? Une nouvelle vie dans une nouvelle ville, sorte d'état dans l'état. Un drapeau est même créé pour bien faire sécession. Ici, ce ne sera pas la croix blanche sur fond rouge qu'arbore le Danemark, mais 3 ronds jaunes sur fond rouge, un nouvel emblème qui claque au vent. Le 26 septembre 1971, le journaliste de la contre-culture Jacob Ludvigsen annonce officiellement, et je le cite, « La cité des militaires est désormais ouverte à la colonisation. Le lieu est baptisé Christiania, ville libre. Et les habitants seront des christianites. Et tous respecteront cette charte. »
L'objectif de Christiania,
est de créer une société autogérée dans laquelle chacun des individus se considère responsable du bien-être de la communauté tout entière. Notre société doit être économiquement autonome et nous ne devrons jamais dévier de notre conviction que la misère physique et psychologique peut être évitée.
Ah, il est bien excitant de créer une société idéale sur cette ancienne base militaire qui, jadis, défendait l'entrée de la ville sur la rive est. 30 hectares entourés de douves et de talus boisés, 170 casernes et dépôts de munitions dont le ministère de la Défense ne sait toujours que faire. Et qui s'inquiète devant la ruée des jeunes en ce lieu. Car rapidement, d'autres militants débarquent, qui campent dans les anciennes casernes ou sur les remparts. De 40 en 1971, ils passent à 500. Esprit 68 oblige, nombre d'entre eux sont bouddhistes, marxistes, anarchistes et autres trucanistes, adeptes surtout du retour à ce qu'ils considèrent comme les vraies valeurs. D'autres sont poètes, enseignants, fans de théâtre underground. Toutefois, s'agrègent aussi des gars en cavale, des dealers ou des drogués. Gênant, pas tant que ça, car Christiania se doit d'être inclusive, même si le mot n'existe pas encore. L'idéal est de n'avoir aucun préjugé bourgeois. Souvenir sur France 2 de Léonard, un ancien de la bande.
On était des hippies, juste des hippies. Nous avions peace and love dans le cœur comme tous les hippies. Comme on n'avait pas d'endroit pour vivre à Copenhague et qu'on voulait habiter ensemble, je suis allé voir le ministre de la Défense pour squatter cette caserne. Christiania, pour moi, c'est un peu comme un cirque. La paix, la fin des conflits, c'est ce qu'on voulait obtenir. C'est pour ça que nous sommes battus pendant 25 ans.
Étrange cité où l'on ne se déplace qu'à pied, à vélo ou à cheval et où règne un manque de confort total. Ici, ni électricité ni mazout. On s'éclaire à la bougie et on se chauffe au bois. Chacun s'occupe des enfants des autres et les banques n'existent pas. On vit en pratiquant le troc. Un poil contre un vélo, un repas ou une séance de sauna, par exemple. Pour subsister, les habitants cultivent leur potager et chacun est tenu, lorsqu'ils s'installent, de planter un arbre et de nettoyer leur restaurant communautaire à tour de rôle. Une sorte de kibbutz à la mode scandinave? Pas tout à fait. Car ici, l'idée est de renverser l'idée même de productivité. Et le cahier des charges le prévoit. Les christianites ne sont tenus de travailler que 3 mois par an. Alors on se réveille tard, on flâne et on dîne à la lueur des feux de bois. Des troupes de théâtre donnent des représentations gratuites. D'autres montent des spectacles de cirque. On porte le cheveu long et, cerise sur le gâteau, on peut librement y fumer du hash, une pratique totalement interdite dans le reste du pays. Un bonheur simple, donc, que le gouvernement social-démocrate observe avec circonspection. Car enfin, que faire de cette poignée de jeunes babacoules issus de la bourgeoisie pour la plupart? Quoi, leur envoyer la police? Pas facile, ça ferait mauvais genre. Ces jeunes-là ne sont pas des terroristes, ils ne posent pas de bombes. Pourtant, certains s'interrogent. Comment le Danemark, champion de l'État-providence, a-t-il pu enfanter une génération d'enfants au bord de la clochardisation? Et comment comprendre que certains nantis les défendent? Parle-t-on ici d'enfants gâtés ou d'enfants perdus? Et voilà qu'aux élections, les sociodémocrates cèdent leur place aux libéraux, les bien mal nommés, qui décident de reprendre le contrôle. Explication dans le journal François du 5 octobre 1975.
En avril prochain, la cité sans argent, sans voiture, sans mariage, sans policiers, sans vol, sans meurtre et sans suicide aura vécu. Cette enclave bénie, située au cœur de la ville de Copenhague, sera livrée au bulldozer par une décision du gouvernement danois. Ces quelques centaines de milliers de mètres carrés, qui furent pendant plus de 3 ans les moins chers d'Europe, tomberont sous la coupe de promoteurs immobiliers et ces derniers ne cachent pas leur intention d'en faire un quartier résidentiel de haut standing.
Un quartier de haut standing aux antipodes de l'idéal christianite? En effet. Car enfin, n'est-il pas ahurissant de laisser ces anarchistes squatter ce joyau de la capitale? 3 ans déjà que cette situation dure, 3 ans que l'État laisse faire. On le dit tolérant, négligent, il est surtout très embarrassé. Voilà pourquoi, dès le départ, le squat a été autorisé par les sociodémocrates sous le titre d'expérience sociale. Une expérience que les libéraux ne tolèrent pas. Comme en témoigne Ole Hansen sur France Culture, Oh, il s'en souvient parfaitement, il était porte-parole des conservateurs à la mairie de Copenhague.
Pour moi,
ça a été une sorte d'invasion de squatters, un des plus beaux endroits de Copenhague. A été occupé par des gens qui voulaient quitter la société, ne voulaient pas payer de loyer, ont simplement occupé des territoires et des maisons. C'était un mélange de gens qui étaient des opportunistes, bien adaptés, qui ont sous-loué leur maison et leur appartement pour vivre pour rien à Christiania et qui y sont toujours.
Sauf que les christianites ne se laissent pas faire et décident de monter des coups contre la police. Toujours dans la non-violence, ce qui met les autorités dans l'embarras, bien sûr. Le plus fameux reste celui des Pères Noël. En 1974, ils recrutent des comédiens et les déguisent, en Père Noël donc, pour faire croire aux clients des grands magasins que tout est gratuit pendant 10 minutes. Évidemment, un mouvement de foule s'ensuit qui provoque l'arrivée de la police, qui pour la première fois dans l'histoire du pays, se jette sur les Pères Noël et les embarque au poste. Rien de mieux pour ridiculiser la marée chaussée. Cette action restait célèbre, incarne bien le genre à la fois loufoque et très malin de christianites. Ces derniers le savent, rien de plus important que la communication politique. Dans la foulée, les voilà qui créent leur nouveau slogan « Vous ne pouvez pas nous tuer car nous faisons partie de vous ». Un slogan qui horripile le ministère de la Défense et le pousse à saisir la haute cour du pays. En réaction, les christianites organisent une manifestation immense devant l'hôtel de ville. Et leur combat infuse. À travers l'Europe entière, voilà que tous les partis de gauche les soutiennent. Dans les listes, on retrouve même des personnalités huppées, tel cet armateur branché qui leur envoie de gros chèques. Quelques mois plus tard, les sociodémocrates reprennent le pouvoir et relâchent la pression sur Christiania. Question d'image, mais aussi de réel politique. Car au sommet de l'État, tous le savent, cette ville libre présente des avantages non négligeables. En ligne de mire, ce que les petits bourgeois nomment les cinglés de Christiania, qui considèrent que la société danoise est suradministrée. C'est écrit dans leur manifeste. Nous soutenons que l'homme est un être social et qu'une société qui s'accommode de prisons, d'institutions et d'hôpitaux psychiatriques révèle sa propre faillite en tant que société humaine. Ont-ils lu Foucault ? Possible. Ont-ils chanté Imagine ? Sans doute. C'est ainsi qu'en décembre 77, le journal Libération rappelle que les christianites n'ont pas seulement construit deux moulins à vent et un amphithéâtre, mais qu'ils ont aussi créé leur propre maison de santé.
Le Danemark, frappé par la crise, voit bien qu'il existe d'autres moyens de traiter les jeunes fugueurs qu'en les renvoyant chez leurs parents. D'autres moyens de soigner les malades mentaux qu'avec des médicaments. Et d'autres moyens de résoudre les problèmes des drogues dures qu'avec une brigade anti-stupéfiants. C'est tout cela qui est en jeu dans ces hectares laissés à l'abandon. Longue vie à Christiania. Et pour ceux que cela intéresse, le comité de soutien est ouvert à toutes les initiatives. Téléphone 45 1 579 357. Tous les jours de midi à 15h.
Car en cette fin des années 70, qui pourrait le nier ? Les drogues et les maladies mentales font des ravages parmi les jeunes. Et le Danemark n'est pas épargné. Mais voilà les christianites logés gratuitement, nourris et calmés par le hash qu'ils peuvent fumer à volonté. Alors la mairie laisse faire, car finalement c'est donnant-donnant. Un contrat implicite qui dit quelque chose comme « Nous garantissons votre liberté tant que vous gérez les drogués ». Mais en vérité, c'est un contrat infernal. Car bientôt, aux fumeurs de hash, s'agrègent de nouveaux venus qui ne partagent pas le même état d'esprit, les dealers d'héroïne.
Gone, gone, the damage done.
because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Christiania, Quartier Libre.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Christiania est devenue une sorte de ville libre au milieu, au cœur de Copenhague. C'est-à-dire une ville où il y a bien sûr les lois normales pour les gens, mais c'est un essai social où des gens de tous les endroits sociaux dans la société peuvent vivre ensemble. Il y a beaucoup d'étrangers ici, il y a beaucoup de jeunes, il y a aussi des drogués, mais toute la lutte à Christiania, c'est éviter les drogues. Jamais de drogues ici. Et bien sûr, il y a des drogues, mais on fait tout ce qu'on peut pour éviter les drogues. Et il y a plusieurs gens, plusieurs groupes sociaux qui habitent ici. Il y a les groupes qu'on a vus pendant qu'on traversait la rue de Pouchet, on dit ça, là où on peut acheter le hashish et tout ça, mais pas les vrais drogues, seulement le hashish. Et ça, c'est permis.
Copenhague, début des années 80. Cela fait 10 ans que Christiania a été créée. Un vrai tour de force politique. Et une nouvelle façon de vivre entre démocratie directe et écologie. Or, voilà que les dealers ont commencé à envahir les lieux dans une zone qu'ils nomment la Pusher Street, comprend la rue des dealers. Oh, elle est facile à trouver, elle se trouve juste à l'entrée du village. Pratique pour développer le trafic. Et peu à peu, c'est une cohabitation âpre et difficile qui se met en place entre les militants de base et les dealers d'héroïne. Car si les premiers ont l'habitude de fumer leur joint tranquillement, ils ont toujours refusé les drogues dures. Et il s'agit là d'une différence de mentalité, comme l'explique ce Français en 1983 au micro de France Culture.
Le petit commerce qui s'exerce à Christiania, c'est le commerce du hashish. C'est un commerce qui rapporte beaucoup d'argent. Personne ne sait combien, je pense que les vendeurs eux-mêmes ne le savent pas, mais enfin, on peut l'estimer à entre 100 et 300 millions de couronnes par an. De tout cet argent, à peu près rien ne revient au reste de Christiania. C'est la première raison du conflit entre ce qu'on appelle les pusheurs de la hache et puis les activistes. Mais il y en a d'autres. En particulier, le monde dans lequel vivent les vendeurs de hache est un monde extrêmement hiérarchique. Ils nous desservent énormément pour plusieurs raisons. D'abord, d'un point de vue des principes, ce sont donc des gens purement capitalistes et autoritaires. Et nous sommes évidemment contre une telle attitude. Ensuite, ils attirent la police, bien sûr, et c'est quelque chose dont on se passerait volontiers. En plus, ce sont des gens relativement violents et qui mènent une vie passablement monotone, désagréable et sans imagination, et qui lentement attirent de plus en plus de gens désagréables et qui n'ont pas une attitude positive à l'égard de Christiania.
Oui, c'est un immense business qui se déploie, puisque le pays entier vient s'y approvisionner. C'est ainsi qu'en honorant leur sacro-sainte liberté, les christianiques se retrouvent piégés. Voilà que la calamité commerciale, l'argent qui pourrit tout, investit les lieux. Et puis il y a cette vilaine rumeur qui court, qui dit que la police ne serait pas rétive au développement de cette Pusher Street. Ce serait même une savoureuse façon de couler la communauté. Un peu tordu, mais bon. Alors, peu à peu, la joie des débuts décline, comme le raconte ce reporter de Libération qui couvre les 10 ans de la ville libre.
De violents incidents ont opposé dans la nuit de vendredi à samedi la police à plusieurs centaines de manifestants à l'occasion du 10e anniversaire de la ville libre au motif de la présence de dealers dans une kermesse de la marginalité avec toute la panoplie hippie au ripos d'une époque révolue. Mais 10 ans plus tard, les problèmes y sont visibles. Le quartier résidentiel est interdit aux touristes qui ne sont tolérés que dans le rôle de consommateurs de la Pusher Street pour y acheter du hashish à des prix exorbitants. L'artisanat n'est plus qu'un lointain souvenir. Nombre de babas sont partis, remplacés par des dealers, dans la plus grande indifférence. on ne défend pas une ville morte.
Christiania, une ville morte, une idée morte? Non, disons malade, mais plus que jamais combative. Et déjà, certains proposent de composer avec la police pour qu'elle les aide à reprendre le contrôle de Pusher Street. Mais c'est une question qui fait réfléchir tout de même. N'est-ce pas une trahison avec l'esprit du lieu, cette alliance avec les flics? De circonstances, certes, mais ça peut faire mauvais genre. Après de nombreux débats, l'accord est donné pour que la police pénètre une fois par mois pour stopper le deal. 1 kilo de cannabis, 1 mois de prison. Hélas, invariablement, les dealers reviennent. Alors, les christianites décident d'organiser des coups de force qu'ils nomment des « junk blockades », en condamnant les junkies à être expulsés en même temps que leurs dealers. Un processus dit de normalisation se met alors en place, qui tord un peu plus la charte de Christiania. D'autant que le versant anticapitaliste se tord lui aussi. Désormais, chaque membre accepte de verser 900 couronnes par mois, soit environ 160 euros, à une caisse centrale pour faire fonctionner le village, payer l'eau, l'électricité et la taxe foncière à l'État. Quant à ceux qui refusent de mettre la main à poche, ils se voient eux aussi expulsés de la communauté, comme l'explique Sven, le gérant des finances.
Vous êtes des rebelles qui payent l'impôt.
Oui, on est obligé.
Mais c'est pas contradictoire?
Mais non, évidemment pas. On doit payer pour être ici. Mais de toute façon, ça reste incroyablement bon marché.
Expulser les habitants fauchés ou récalcitrants, c'est nouveau. Voilà pourquoi, désormais, le ministère de la Défense entretient de cordiales relations avec ses anciens squatteurs. En 1989, il leur accorde même un cadre légal, dit le Christianan Act, doté d'un statut d'exception que le christianite accepte de signer. En témoigne Yanni Runge, membre du secrétariat créé par la mairie pour gérer les relations avec la communauté, qui affirme « Les christianites ne paient jamais en retard, ce sont des citoyens modèles ». Alors, fin du problème? Pas vraiment. Car en ce début des années 2000, c'est la population danoise qui à son tour commence à s'interroger. En cause, l'individualisme de la nouvelle génération des christianites. Certes, elle paye son eau et son électricité, on l'a dit, mais elle se révèle très attachée à son précaré, qui lui arrive même de clôturer. Fini le théâtre gratuit et l'éclairage à la bougie. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont architectes ou webmasters, et ils ont besoin de leurs ordinateurs. L'époque a changé. D'ailleurs, l'un de l'avoue. Le risque principal vient de la communauté elle-même, dit-il. C'est-à-dire que le fait d'avoir des ennemis communs soudait le groupe, tous se retrouvaient dans l'aspiration à une société libertaire. Mais aujourd'hui, nous sommes très divisés. Même constat pour Eric, qui a quitté la communauté. Les gens d'ici n'ont plus d'idéal en commun. Un jour, il n'y aura plus que des riches, des alcooliques et des pensionnaires. L'historien Jens Müller va plus loin. Comprenez que c'est une claque pour ceux qui, tout autour, paient des loyers exorbitants. Il faut bien comprendre que les hippies d'autrefois sont maintenant des gens comme tout le monde, qui se lèvent le matin, emmènent leurs enfants à l'école, puis vont au travail. De l'extérieur, on a l'impression qu'ils vivent comme nous, mais en mieux. D'autant que le rêve initial de l'autogestion est également à relativiser. En réalité, la plupart de ces habitants travaillent à l'extérieur, alors pourquoi devraient-ils bénéficier d'un statut particulier ? Une question de bon sens, en vérité, et un constat amer que partage la députée social-démocrate Jette Bautrup en 2003 sur France Culture.
Les gens de Copenhague et surtout de Christianshavn n'aiment pas du tout, ils sont en colère. C'est un espace vert qui a été pris aux habitants du quartier. Ça a été pris à des gens qui ont des immeubles anciens et... Christiania aurait pu laisser une partie de ses espaces verts. Par exemple, pour que les écoles puissent en faire des terrains de sport. Ou que les enfants du quartier puissent y jouer. Au début, il y a 31 ans, je pensais que c'était une très bonne expérience. Mais ça s'est développé d'une manière telle que ce sont plutôt des égoïstes gâtés qui se trouvent maintenant à Christiania.
En somme, on reproche aux christianites d'être devenus des égoïstes, des privilégiés. D'autant qu'avec la montée de l'extrême droite, les sentiments se raidissent. Le très droitier gouvernement d'Arsnes Rasmussen désire alors normaliser le quartier sous couvert de rénovation urbaine. Résultat, en 2009, Christiania perd son statut de ville libre et l'État en reprend le contrôle. Dans un baroud bonheur, et après 3 jours de blocus, Christianite accepte d'abandonner leur statut de squatteur revendiqué dans les années 70. Une fondation est alors créée afin de contracter un prêt qui leur permet d'acheter un tiers des 30 hectares occupés. La cérémonie de remise légale de la propriété a lieu le 1er juillet 2012. Elle marque clairement le début d'une nouvelle ère. Est-ce la raison pour laquelle s'ouvre ce qu'on nomme communément le droit d'inventaire ? Car enfin, était-ce vraiment mieux avant ? En témoigne ce témoignage issu d'un documentaire diffusé sur France Culture en mars 1983.
Et puis cette femme avait 2 enfants, qui avaient, je crois, 6 ou 7 ans, un garçon et une fille. Et puis, je regarde et je lui dis, on va chez moi. Elle me dit, oui, bien sûr, on va chez toi, oui, mais t'as tes enfants. Elle me dit, bah oui, alors. Je dis, bon, alors on va chez moi, avec les enfants. Et bon, chez moi, comme tu as vu, il n'y a qu'un seul lit. Et puis, elle dit aux enfants, ben voilà, vous dormez là, là, dans le coin du lit. Et puis, la petite fille, qui était la plus jeune, qui avait 6 ans, veut se mettre entre sa mère et moi. Sa mère, évidemment, dit, ah, pas question, tu dors de l'autre côté et pas entre nous deux. La petite fille, furieuse, se dresse sur son séant et dit, ah non, hein, ah, vous allez encore baiser, on va jamais pouvoir dormir. Ah non. Et là, ça a pris évidemment un bon quart d'heure pour convaincre la bonne petite fille de dormir à côté, alors que le garçon, lui, très sérieux, ne disait rien, ça s'était déjà enroulé dans les couvertures.
Eh oui, pas facile pour les enfants d'assister à l'amour libre de leurs parents. Et ce n'est pas tout. À l'été 2015, un documentaire est réalisé qui lève le voile sur la façon dont les premiers christianiques géraient leur famille dans l'intimité. Et la parole se libère. Et c'est peu de dire que le film est un choc à travers tout le pays. Son titre, Les enfants de Christiania ou le revers de l'aventure. Immédiatement, le quotidien Politiken, ancré à gauche, consacre une page à cet événement. On y apprend que la ville libre, que beaucoup percevaient comme magique, opérait de façon oppressante pour les enfants. Certes, ils évoluaient en toute liberté dans un environnement bucolique, entouré d'adultes libres d'esprit. Mais la réalisatrice Neil West l'avoue, « Jamais je n'aurais imaginé que la situation y était aussi mauvaise. J'ai été choqué de voir à quel point le projet de ces adultes avait dérapé. » Comprenait que le combat pour la liberté installait chez les enfants l'idée d'une menace extérieure constante et très déstabilisante. Sans parler des drogues. Ce dont témoigne Rufus, l'un des participants.
Récemment, j'ai tenté d'expliquer à mon père ce qui me dérangeait à l'époque. Mais il m'a répondu « Pourtant, j'étais tout entier avec toi lorsque je te gardais. Quelquefois même, je me levais en même temps que toi à 6 heures du matin. Alors certes, je prenais de l'acide. » Mais je jouais avec toi toute la journée, non ? Mais moi, après coup, je me demande s'il est possible de créer une relation avec un enfant de 2 ou 5 ans lorsqu'on prend du LSD, par exemple. Est-ce qu'on n'a pas simplement joué avec soi-même, dans son propre monde imaginaire ? Et puis, pendant des années, il a hébergé un de ses amis qui se piquait juste à côté de la chambre où je dormais.
Sexualité invasive, drogue dure, voilà l'idéal des années 70 bien abîmé. Des dérives auxquelles les nouveaux venus ne veulent plus adhérer. Non, tous préfèrent désormais la normalité, quitte à devenir un brin coincé. En septembre 2021, le journal Le Matin rapporte ces propos tenus par une photographe de 34 ans. Vous savez, parfois je ne dis pas aux gens que j'habite ici, parce que j'ai l'impression qu'on va me juger. Un peu comme si on me disait « Ah, tu dois bien aimer la marijuana, toi. » Comme si c'était mal. En 50 ans, c'est peu de dire que le changement d'époque est acté. Au point. En 2024, la communauté prend la décision radicale de raser sa célèbre Pusher Street. En cause, une nouvelle fusillade entre les différents gangs. Une de trop, qui cette fois a tué par erreur un jeune qui n'avait rien à voir avec le trafic. Un drame aux yeux de Klaus Danzer, une christianite de 60 ans, qui crée le collectif Knock Er Knock, qui veut dire « trop c'est trop », et qui parvient à convaincre la communauté de reprendre le combat contre la Pusher Street, avec cette idée force, faire comme avant et jouer l'action non violente, mais être moderne aussi et se servir de l'État. Le résultat fait événement, comme le raconte la correspondante Anne-Françoise Hivert dans Le Monde.
Pusher Street n'est plus. Le 6 avril, dans une ambiance festive et sous un soleil radieux, les christianites décèlent les pavés d'une des rues les plus célèbres du Danemark. Ils sont venus en famille, s'affairant au son d'Another Brick in the Wall, le disque de Pink Floyd. Les pavés passent de main en main et sont entassés dans un préau. Certains en gardent un en souvenir. D'autres immortalisent la scène avec leur téléphone portable. Après quoi, le maire de Copenhague et le ministre de la Justice sont venus partager le petit déjeuner avec certains habitants avant de repartir, chacun avec son pavé.
Un petit déjeuner en compagnie des autorités, l'image est saisissante. Et nul doute que les premiers membres l'auraient trouvé improbable et qu'ils se seraient étranglés à l'idée que l'État obtienne enfin le feu vert pour y construire des logements. Autrement dit, qu'ils reprennent la main sur son territoire, en quelque sorte. 53 ans après le début du squat, voilà que Christiania ouvre une nouvelle page de son histoire, scellée par l'idée de réconciliation nationale. Déterrant un pavé de Pusher Street, en compagnie du ministre de la Justice, la maire de Copenhague, Sophie Estorp Andersen, sourit au photographe et lance « Pusher Street doit mourir pour que Christiania vive », sous les applaudissements des anciens et des nouveaux christianites.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Christiania, la ville libre ou quartier libre. Notre invitée, Lorraine Champal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice, vous êtes journaliste d'abord, l'autrice de livre Christiania ou les enfants de l'utopie, édité chez Interval en 2011. Et il se trouve que vous avez vécu 2 ans à Copenhague. Vous travaillez à l'époque pour Libé et pour La Tribune. Et donc vous connaissez bien l'histoire des christianites. Vous vous souvenez de vos premières impressions sur place lorsque vous vous êtes rendue là-bas? Pour la première fois, c'était quand d'ailleurs?
Ça devait être en octobre ou novembre 2003 quand j'arrivais.
D'accord.
Effectivement, j'ai une impression un petit peu mitigée au premier abord de découvrir Christiania et notamment Pusher Street qui est juste à l'entrée de la ville libre. Mmh. Donc c'est vraiment le premier contact qu'on a quand on arrive en touriste. Et c'est assez improbable de voir tous ces stands de hashish où des joints sont en vente libre, roulés déjà à l'unité, etc. C'est assez étonnant. Et on peut facilement passer à côté de ce qu'est Christiania quand on se cantonne uniquement à Pusher Street.
Mais peut-on aller leur parler facilement pour ne pas se cantonner justement à cette première impression?
Alors c'est un monde très masculin, les dealers de Pusher Street. Ils n'ont pas l'air très très agréable et très facile d'accès. Par contre, dès lors qu'on visite un peu plus Christiania, qu'on va un peu plus vers les maisons, les commerces, etc., on peut croiser des christianites, de vrais habitants de la ville, qui ne sont pas dealers, qui n'ont pas de lien avec cette criminalité et qui sont beaucoup plus ouverts.
Alors, puisque vous avez vécu à Copenhague, quel était l'état des relations entre les habitants de Copenhague, de la ville ou autour, et puis ceux de Christiania?
Alors, ce n'est pas une enclave du tout fermée. Les liens sont très poreux, en fait, entre la ville de Copenhague et Christiania. Beaucoup de gens qui habitent à Christiania travaillent à Copenhague et inversement, beaucoup de gens qui habitent dans Copenhague travaillent à Christiania. Donc, il y a des échanges quotidiens. Mm-hmm. C'est un lieu avec beaucoup de bars, beaucoup de commerces, beaucoup de vie. Donc, c'est un lieu qui est très, très, très plein le week-end. C'est un lieu de promenade pour les parents et les enfants. Enfin, c'est vraiment pas fermé, en fait.
Oui, il y a pas d'enceinte autour, c'est clair.
Non, alors c'est sur les anciennes enceintes de la ville, les anciens remparts.
Mmh. Oui, mais ce sont que des remparts, c'est pas un mur.
Il y a des remparts d'un côté, mais c'est pas du tout fermé et les contacts sont vraiment quotidiens. On peut tout à fait se promener à Copenhague comme à Christiania facilement.
Alors que vous inspirent ces lignes écrites par la journaliste Camille Olsson au Monde en 1978, je rappelle ces lignes, reste la question que se posent certains. Comment le Danemark a pu enfanter une génération d'enfants perdus au bord de la clochardisation, on le disait dans le texte, et comment comprendre que certains nantis les défendent? Autrement dit, et je vous demande votre avis là-dessus, parle-t-on ici d'enfants gâtés ou d'enfants perdus?
Alors, à mon avis, c'est un point de vue que je ne partage pas. Je n'ai pas connu ces années-là. Hein. Je crois que c'était dans les années 80.
Oui, c'était plus ancien que
voilà,
ces jours.
Voilà, c'est plus ancien. À l'époque, c'était sûrement pas mal le bazar à Christiania. Moi, quand j'ai découvert la ville libre entre 2003 et 2005, et puis après, C'était beaucoup plus normalisant, entre guillemets. Enfin, j'ai pas vu de gens qui vivaient au bord de la clochardisation. Alors, j'ai vu pas mal de gens traîner dans Christiana parce qu'ils n'avaient pas vraiment de place pour aller ailleurs. Mais la plupart des gens à Christiania vivaient très bien, certains dans des jolies maisons, d'autres dans des appartements collectifs, il y en a encore dans Christiania, dans les anciennes casernes. En fait, on peut vivre un peu de toutes les manières qu'on veut à Christiania, de manière soit collective, soit de manière assez individualiste.
Alors, vous avez beaucoup travaillé sur la question des Inuits. Hein. Est-il exact que nombre d'entre eux qui n'étaient pas parvenus à s'intégrer à Copenhague avaient trouvé refuge à Christiania? Rappelons que le Groenland est un territoire danois, n'en déplaise à M. Trump, autonome depuis 1979.
Semi-autonome, oui. Effectivement, j'ai pas mal travaillé sur les Inuits, notamment sur leur exil forcé en 1953 pour l'installation d'une base militaire américaine au nord-ouest du Groenland. Mais bon, c'est un tout autre sujet qui revient un peu sur le devant de la scène avec Donald Trump. Mais effectivement, à Christiania, on peut croiser quelques Groenlandais qui ne se sont pas intégrés à la société danoise et qui trouvent à Christiania un soutien et pas mal de solidarité, notamment au sein de la maison de santé. C'est une maison, un dispensaire de soins qui est ouvert à tous et qui permet d'accueillir les gens qui viennent se faire soigner, soit pour des addictions, soit pour des maladies chroniques, etc.
Est-ce qu'on trouve une autre sorte de population qui vient souvent à Christiania et qui n'habite pas forcément, des gens de Copenhague, peut-être des groupes sociaux particuliers qu'on retrouve plus que d'autres?
Alors, pas en particulier, à part les touristes nombreux de Christiania, parce que c'est la troisième attraction touristique
on y
de la ville.
Ouais, le tourisme.
Non, pas forcément de groupe.
Alors, on l'a vu dans le récit, le narcotrafic s'est rapidement infiltré dans Christiania. Les dealers ont élu domicile dans la fameuse Pusher Street. Est-il exact que les Hells Angels ont tenté eux aussi de s'y installer?
Oui, tout à fait. C'était dans les années fin 70-80. Les Hells Angels se faisaient la guerre avec un autre groupe d'immigrés de Copenhague. Une guerre fratricide qui a fait plusieurs morts et qui a poussé les christianites à les mettre dehors parce qu'eux n'étaient pas sur le hashish et la marijuana, mais plutôt sur les drogues dures, héroïne, etc.
Alors, autre revers de la médaille, je crois d'ailleurs que le reportage qu'on a entendu vous a interpellé, la parentalité parfois défaillante des parents sur place. Et une question que vous connaissez puisque vous avez dressé le portrait de 17 christianites dans votre livre. Vous avez été surpris par leur témoignage?
Oui, alors le témoignage que j'ai entendu dans votre documentaire, je ne le connaissais pas. Moi, dans les personnes que j'ai interrogées pour mon livre, la plupart étaient parents ou grands-parents. Et certains avaient enjoint à leurs enfants de quitter Christiania pour découvrir un peu autre chose, pour découvrir que la ville, que la vie est différente à Copenhague ou ailleurs. Certains de ces enfants ont voulu revenir une fois adultes à Christiania et n'ont pas forcément réussi à obtenir une place, parce que les places sont très très chères et ça se fait que par cooptation quand un christianite meurt et donc libère une maison ou un appartement. J'ai eu quelques témoignages de jeunes qui avaient quitté Christiania parce qu'ils voulaient rentrer dans le système, mais je n'ai pas entendu parler de dérives de la sorte sexuelle.
Et quels sont les souvenirs les plus poignants qui en ressortaient, ou en tout cas parmi tous les témoignages que vous avez recueillis, lequel ou lesquels vous ont particulièrement interpellé?
Alors, il y en a beaucoup, mais j'ai découvert des personnages très attachants, notamment un musicien qui se fait appeler Joker, qui a pris des drogues dures, pour le coup, dans sa jeunesse, et qui ne trouverait pas d'autre place ailleurs qu'à Christiania, qui a été un peu recueilli par la communauté et qui fait des concerts là-bas, dans les nombreuses salles de concert. Il y a aussi des gens tout à fait normaux, comme Mette, que vous avez, qui avait un témoignage, elle a aussi témoigné dans mon livre. Charlotte, aussi une femme qui, sans aucun lien avec ce domaine-là, a repris la fonderie de Christiania, uniquement avec des femmes. Enfin voilà, il y a plein de personnalités, et notamment Marianne, une jeune Française que j'ai rencontrée à Christiania et qui est un peu une des piliers du service public de Christiania parce qu'elle s'occupe du recyclage des déchets et elle introduit à Christiania le lombricompostage. Donc il y a des gens extrêmement investis, impliqués, à côté d'autres qui peuvent vivre en passant à côté de l'expérience communautaire et sociale.
Et concernant la scolarisation des enfants, comment ça se passe?
Alors, à Christiania, il y a à la fois une crèche et un jardin d'enfants, oui, dont les places sont assez limitées. Donc, je crois que c'est à peu près 10-15 enfants de Christiania qui sont accueillis dans chacune de ces structures. Et après, une fois que les enfants ont 6 ans, ils vont à l'école à Copenhague. Il y a une école non loin à Christianshavn, le quartier de Christiania. Ou alors, pas très loin non plus, il y a une autre école, Rudolf Steiner, qui est plus sur des... un peu une pédagogie alternative. Donc certains enfants étaient dans l'école normale à Christiansand et d'autres à Rudolf Steiner.
Pour celles et ceux qui ne sont jamais allés à Copenhague, on rappelle que Christiania est vraiment au centre-ville, hein, c'est ça?
C'est vraiment en centre-ville, à 10 minutes de vélo de la place de la mairie. Donc c'est vraiment très très central.
À 10 minutes de vélo, on sera bien connu à Copenhague. Hein.
France Inter. Sensible.
Aujourd'hui, Christiania, quartier libre au centre de Copenhague. Et j'aimerais vous faire écouter, on va le faire d'ailleurs, ce témoignage diffusé en 2019 sur France Inter. On y entend Katharina, une jeune femme de 27 ans qui vit dans Christiania et qui travaille comme guide. Car avec 1 million de touristes par an, c'est énorme, 1 million de touristes par an, le quartier est devenu donc très touristique.
Je pense que vivre dans une communauté comme ça résout un des plus gros problèmes sociaux qu'on a dans les pays développés, la solitude. Parce qu'ici, c'est physiquement impossible d'être seul. Tu partages tellement, il y a plein de volontaires qui travaillent ensemble. Pour moi, beaucoup de gens pourraient apprendre à vivre en communauté et en coopérative. Et j'espère quelque part que Christiania contribue à ça. Montrer qu'on peut vivre un peu mieux, plus intelligemment et à être plus sympa dans la vie quotidienne. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que tu peux imposer à n'importe qui, mais je pense que Christiania peut être une inspiration pour apprendre aux gens à vivre un peu mieux.
Et voilà, un parc des valeurs, hein, contre la solitude, pour plus d'empathie. Qu'en pensez-vous ?
Oui, tout à fait. On peut vivre de manière totalement individualiste ou en collectivité dans Christiania. Il reste dans les anciennes casernes quelques appartements collectifs. C'était le cas au tout début, hein, c'était que des appartements collectifs. Les gens vivaient à 15 dans un appartement. Alors, c'était des très très grands appartements, hein, parfois 400 mètres carrés dans les anciennes casernes. Mais il en reste quelques-uns. Et j'avais interrogé notamment Thomas, qui est très activiste et qui tenait cet appartement. Il ne payait pas de loyer à la caisse commune en échange de l'ouverture du cinéma de la communauté, qui est ouvert à tout le monde en Copenhague, un cinéma alternatif. Mm-hmm. Donc voilà, il y a plein de manières de vivre dans Christiania, proche de ses voisins ou en retrait dans un quartier un peu excentré de Christiania.
En tout cas, la nouvelle génération de christianites ne désire plus vivre dans l'illégalité. Elle est même parvenue en 2015 à s'entendre avec l'État en payant 10 millions d'euros pour acquérir une partie de ses terres via une fondation. Alors, le plus surprenant, c'est que l'idée de collectivisation y est toujours présente. Car ils ont permis à chacun, danois ou pas d'ailleurs, d'acheter pour eux une action du peuple via un site internet. Action du peuple, expliquez-nous ça.
Des actions du peuple, exactement. En fait, il y a peu de règles à Christiania, mais il y en a qui persistent et qui sont fondamentales. Pas d'armes, pas de drogue dure, pas de voiture et pas de propriété privée. Donc personne ne possède rien. Christiania a réussi, enfin la communauté a réussi à se racheter, entre guillemets, à racheter le terrain via une fondation. Donc pour 10 millions de couronnes, c'est une somme dérisoire pour 34 hectares de terrain en plein Copenhague. Mais n'empêche qu'ils l'ont fait et du coup ils ont ils doivent faire quelques concessions vis-à-vis aussi du gouvernement et notamment dans les prochains temps ce sera d'accueillir de nouveaux occupants dans des logements sociaux en bordure de Christiania.
D'accord. Et peut-on dire qu'en acceptant cette proposition d'achat et en ouvrant le financement à des souscripteurs militants, ils sont parvenus à garder un peu de l'esprit des années 70, parce que tout ça se fait dans un monde marchand, de plus en plus marchand, où il n'y a que le fric qui compte.
Oui, ouais, tout à fait. Je pense que Christiania a beaucoup, beaucoup évolué depuis sa fondation en 71, mais l'idée même de l'absence de propriété privée perdure, l'anticonsumérisme, une société quand même alternative, ça reste une utopie concrète avec, avec beaucoup de difficultés aussi. Hein.
Est-il exact qu'au Danemark, il est d'usage pour les nouveaux ministres d'offrir un cadeau de départ aux ministres sortants et que, bon ça aussi en France, enfin je ne sais pas, En tout cas, au Danemark, ça se fait. Et que Margrethe Vestager, la ministre de l'économie, en a profité pour offrir à son prédécesseur une action du peuple. C'est ça l'humour danois ?
C'est l'humour danois. Et en même temps, Margrethe Vestager, c'est une ministre de gauche. La gauche a quand même plus soutenu Christiania que les gouvernements de droite, évidemment. Et donc, on peut se dire que c'était un petit clin d'œil à son successeur.
Oui, est-ce qu'on peut imaginer tout ça à Paris, sachant que la lutte contre le cannabis est l'une des plus féroces d'Europe en France, hein, totalement inopérante d'ailleurs, puisque nous sommes le pays qui compte le plus de fumeurs de joint en Europe. Est-ce qu'on peut imaginer un lieu comme ça à Paris ?
Un lieu comme Christiania, ouais. ça serait étonnant, même si bon, c'est vrai qu'il y a des exemples de sociétés un peu alternatives, mais ça reste à de toutes petites échelles. Christiania, c'est quand même 1000 personnes, hein, dont 200 enfants, qui vivent en plein centre d'une capitale. Ouais. C'est totalement inédit en Europe.
Bien sûr. Quand on a détruit Pusher Street, ça a été un événement ?
C'est pas la première fois qu'on détruit Pusher Street.
Ah bon ?
Alors, on n'avait pas enlevé les pavés de Pusher Street comme l'an dernier, mais quand j'y suis allée faire mon premier reportage pour Libération en 2004, Pusher Street était déjà en train d'être détruit. C'était un signal envoyé au gouvernement des habitants qui disaient on va arrêter les dealers et puis on pourra continuer notre expérience sociale.
Mais au bout du compte, alors, là, au moment où on parle, je ne sais pas si vous y êtes retourné là tout récemment, mais... quelle est la situation ? Pusher Street a été nettoyée, si je puis dire ? Vraiment ?
Ça a été nettoyé, j'y suis pas retournée tout récemment, mais on peut imaginer que la vente perdure un peu sous le manteau, comme c'était le cas déjà en 2004. Mais je crois que les christianites en ont vraiment ras-le-bol des violences des dealers qui ont fait 3 morts effectivement ces 3 dernières années.
Alors, sur la 4e de couverture, on va terminer avec ce paragraphe qui est écrit, qui dit tellement de choses. C'est écrit « Christiania est la plus grande expérience de vie alternative au cœur d'une capitale européenne, effectivement. Christiania est aussi un espoir, l'espoir qu'un autre mode de vie urbain est possible au 21e siècle. Christiania est un chantier, une expérience en cours, un lieu unique au monde où rien n'est figé, où tout reste à inventer. » Je voulais citer ces phrases-là parce que je trouve qu'elles résument tout à fait le propos. Merci infiniment, Lorraine Champal.
Merci.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Christiania, à Quartier Libre, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Frédéric Kiefer.